Ça, ça a été une énorme galère, probablement la plus grosse galère de la fourchette. Et on a été de mauvais choix techniques. Et on s'est retrouvé après un an et demi de boulot pour tout refondre avec une plateforme qui, où le jour où on la lance, techniquement, ça fonctionnait à peu près. Mais consommateur pas satisfait, restaurateur pas satisfait. Et surtout, baisse des réservations de 20%. Quoi.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Gélens-Perger, le cofondateur de La Fourchette. Bonjour Bertrand.
Bonjour David.
Pour les peut-être quelques personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, toi ou La Fourchette, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Ah, donc moi, je suis un entrepreneur depuis que je suis sorti d'école. La Fourchette était ma troisième entreprise. Et pendant 15 ans, j'ai donc cofondé puis dirigé La Fourchette, que j'ai quitté maintenant il y a 6 mois pour lancer des projets à impact. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur La Fourchette.
Yes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui intéresse tout le monde, hein, c'est cette fabuleuse expérience de La Fourchette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prémices? On en a parlé avant de démarrer ce podcast. Toi, tu n'as jamais vraiment été employé, tu as juste fait quelques petits stages et dès que tu es sorti d'école, tu as monté ta première boîte. Raconte-nous un peu ces premières expériences que tu as eues.
Alors moi, depuis que je crois que j'ai 10 ans, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Pour moi, c'était bien avant Internet.
Tu avais de la famille qui était entrepreneur?
Ouais, globalement, dans ma famille, on était pas mal entrepreneurs ou en tout cas, on était dans le business, comme on dit de nos jours. Et puis, j'ai eu la chance de faire mes études entre 95 et 98, qui était vraiment le démarrage d'Internet. Donc juste 97, c'est l'année où Hotmail a été vendu et où Amazon a été introduit en bourse. Et donc on commençait à échanger par email, etc. Et donc là, ça a tout de suite été pour moi le terrain de jeu idéal pour être entrepreneur Internet. Et donc en sortant d'école, du coup, on n'avait pas d'idée, mais avec un copain d'école, on a décidé de lancer une boîte. Donc on s'est mis autour d'une table et puis on a réfléchi à différents projets. Et en bon étudiant d'école de commerce, on a lancé un site de jeux boursiers qui s'appelait CACmania, édité par une société qui s'appelait Boursipoli. Enfin, c'était la société qui s'appelait Boursipoli, le site s'appelait CACmania. Et ça a plutôt bien marché. Alors, succès d'estime jusqu'au 11 septembre. Et là, première grosse galère d'entrepreneur. Mais là, c'est une galère vraiment systémique, un peu comme le Covid. Effondrement des tours, effondrement de beaucoup d'industries, dont l'industrie Internet.
Et est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'est ce qu'on me racontait, vers 99, tout le monde montait sa boîte. Genre littéralement, tous ceux qui sortaient d'école de commerce montaient sa boîte parce que c'était des valorisations absurdes. Tu mettais 3W devant ton nom et t'avais moins de 30 ans, tout le monde voulait investir dans ta boîte.
Alors donc moi, je suis sorti en 99, donc c'est exactement ça. Mais non, pas du tout, c'est l'inverse en fait. Moi, j'étais très surpris de voir ce qu'il y avait si peu de personnes dans les écoles de commerce qui en fait devenaient vraiment entrepreneurs tout de suite. Ils allaient plutôt dans le conseil,
la finance,
c'était les trucs classiques, conseil, finance, avocat ou grande entreprise.
Okay.
Donc non, c'était, on était très très peu finalement dans la promo à l'époque. On était peut-être sur 300, j'ai envie de dire peut-être une quinzaine quoi,
aller
monter notre boîte. Donc c'est l'inverse aujourd'hui où les écoles de commerce, 50% qui vont monter leur boîte. Non, ça a beaucoup progressé.
En sortie d'HEC, tu prends à 5 ans après, tu as peut-être 20% de la promo facile qui a déjà pris une boîte. Quoi.
Exactement.
Ok, et donc raconte-nous ça. Concrètement, là, cette boîte-là, quand tu l'as montée, Tu l'as monté avec qui? Comment tu as eu l'idée? Comment tu as trouvé les premiers clients? Quelles sont les erreurs de base que tu as dû faire pour quelqu'un qui était un enfant, en fait?
Ouais, bah alors en fait, bah les erreurs, on les fait, enfin on fait un peu toutes les erreurs. C'est donc comment on l'a monté, bah on avait vraiment envie de créer une boîte. On s'est dit voilà, Internet, il faut créer une boîte là-dedans. Et j'ai réussi à convaincre plusieurs personnes de ma promo, dont une à qui on s'est associé, Antoine Fraisse. Comment on a trouvé l'idée, j'ai envie de dire que c'est en regardant autour de nous, en regardant ce qu'on savait faire, ce qu'on aimait, et de se dire tiens, il y avait un marché qui se développait, qui était le marché de la bourse en ligne. Donc c'est-à-dire que voilà, la possibilité d'acheter, de vendre des actions directement via Internet, via des sites, des plateformes, à l'époque Self-Trade, Boursorama n'était pas une plateforme, mais ouais, enfin, en tout cas voilà, ce type de plateforme. Et donc on s'est dit tiens, si on fait des jeux de simulation boursiers, ça permettra d'attirer des personnes qui sont intéressées par la bourse mais qui ne sont pas encore prêtes à franchir le pas de boursicoter en ligne.
C'est comme le poker avec du faux argent, en fait.
Exactement, c'était comme le poker avec du faux argent. Et comme il y avait une quinzaine de plateformes qui se lançaient de trading en ligne à ce moment-là, en fait, on leur vendait des leads de personnes qui étaient de fait très intéressées par le sujet. Et donc, ça a plutôt bien marché. On vendait soit de l'emailing, soit de la pub sur le site. Hein. C'était la grande époque des bannières.
Et tu l'avais lancé en ayant déjà une idée de ce business model-là. Tu étais assez mature pour te dire, on va faire
un
jeu et on va déjà penser à la monétisation.
Ouais, tout à fait. Alors moi, j'étais quand même beaucoup plus fan de transactionnel que de publicité à l'époque déjà. Parce que pour moi, c'était voilà, la publicité, c'était quand même fragile. Mais la publicité, ça fonctionnait bien. On n'avait pas trouvé de modèle transactionnel pour notre business. Donc, c'était un business model de publicité pure, donc de lead gen, hein, pour les plateformes.
Et comment tu l'as développé cette... Parce que toi, tu as fait une école de commerce à HEC. Ton associé aussi.
Ouais.
Qui savait développer une plateforme comme ça? Comment vous avez fait?
Alors... je pense qu'à HEC, il y avait un cours qui m'a beaucoup plu, c'était le cours sur Access, là, les bases de données.
Je l'ai pas eu.
Et moi, auparavant, j'avais fait un stage où j'avais développé un CRM pour une boîte, enfin pour une banque, enfin pour une équipe d'une banque, rassurez-vous, si vous êtes les clients de la banque. Et donc, j'avais quand même pas mal compris tout ce qui était... comment ça fonctionnait. Et après, j'avais fait mon dernier stage, c'était dans une agence web. À l'époque, c'était un peu les endroits où on apprenait l'Internet. Et où, pareil, j'avais quand même touché au HTML, comme je connaissais les bases de données, etc. Donc, en gros, je connaissais l'architecture globale d'Internet. Et du coup, on a commencé juste avec une SS2I qu'on a associée au capital. À l'époque, ça se faisait quand même pas mal. Qui a fait le site. Et puis après, on a embauché, entre guillemets, un stagiaire, un apprenti. Et l'apprenti et moi, on a continué à, entre guillemets, architecturer et développer la plateforme.
Et tu l'as monté jusqu'à où, cette boîte, du coup, avant le crack?
Bah, jusqu'à où? On était une petite dizaine. Je n'ai plus aucune data en tête. Ce que je sais, c'est que c'était en francs.
Ouais, c'est ça, ça
les gros mots, on faisait peut-être 50 000 francs de chiffre d'affaires. Mais ça, on commençait à se dire qu'on allait pouvoir structurer plus l'équipe,
se verser
des salaires, mais on ne se versait pas de salaire avec mon associé. Enfin, voilà, ça restait très fragile. Mais il y avait de la croissance, il y avait de l'attraction, il y avait de l'activité sur le site. Et la marque commençait à être connue. Puis comme c'était très, très... Bon, l'avantage de la bourse, c'est que c'est quand même très, très CSP+. Donc, c'est l'audience de très bonne qualité. Donc, on pouvait bien...
Se revancher. Comment ça s'est passé l'explosion de cette bulle, du coup? Parce que, est-ce que c'était du jour au lendemain? 11 septembre, finito. Comment ça s'est passé? Ça a pris un mois, deux mois, trois mois?
Ça a été très brutal. Hein. Donc, en quelques jours, tout s'est arrêté. Les commandes ont toutes été annulées, les commandes de pub. La bourse s'est effondrée. Le transport aérien s'est arrêté. Enfin, voilà. Donc, le tourisme s'est arrêté aussi. Le bâtiment s'est pas mal arrêté aussi. Enfin, voilà. Il y a pas mal, gros impact à ce moment-là. Et donc, on a très vite compris qu'en effet, le monde changeait. Après, on ne savait pas si ça allait reprendre ou pas. C'est toujours la question. Ce qu'on a assez vite compris aussi en quelques semaines, c'est qu'en fait, ça ne reprendrait pas comme avant. Et en particulier, le coût de la pub sur Internet, Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était fini, que cette époque-là était finie, que de toute façon ça valait pas le prix que c'était vendu. Et donc à ce moment-là, enfin ça c'est un petit conseil là pour les auditeurs, c'est presque le plus gros learning de la première de cette première expérience, cette première galère, c'était de se dire en fait avec Antoine là on s'est donné un objectif à 6 mois en se disant on se donne 6 mois pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires. Si on ne l'atteint pas, on ferme la boîte, on ne pose pas de questions, on ferme la boîte. Parce que souvent, c'est plus compliqué de fermer une boîte que de la lancer finalement.
En fait, c'est ça. Un des problèmes quand tu as ta boîte, c'est quand elle stagne. Tu te dis, est-ce que je ne suis pas assez résilient ou est-ce que je m'entête à foncer dans un mur, quoi.
Exactement. Ouais, et souvent, l'entêtement, voilà, il ne faut pas confondre témérité et entêtement. Et nous, on s'était pris un gros choc. On ne voulait pas abandonner comme ça en quelques semaines. En même temps, on était tombé tellement bas.
Vous avez dû licencier tout le monde
Ouais, alors on a laissé partir les gens, voilà, et on est resté très peu dans la boîte. Et on s'est dit, voilà, si on fait les chiffres d'affaires, target, on continue. Si on le fait pas, on ferme la boîte. Et donc, 6 mois après, bon, on l'a su quelques semaines avant, hein, on n'était clairement pas du tout au chiffre d'affaires, okay. On n'était pas à 20%, même pas à 50%. Donc, la question ne s'est même pas posée, on a fermé la boîte et on a été vivre d'autres aventures.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que toi, tu sors d'HEC, tu as fait cette boîte pendant 2 ans, elle marche pas, elle plante. Une personne normale, elle serait allée bosser, elle aurait pris un salaire, surtout que là, t'es sorti il y a 2-3 ans d'école, tes potes, ils commencent à bien gagner leur vie. J'imagine que limite, il y en a que tu peux plus suivre en vacances et des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe là dans ta tête à ce moment-là quand tu la fermes, cette boîte?
Alors, la question financière, c'est pas du tout posée. J'avais la chance d'avoir une épouse qui travaillait. Okay. On avait organisé notre vie pour pouvoir vivre sur son salaire. On avait même eu une petite fille entre-temps. Et ça passait. Alors, c'était pas luxueux, mais ça passait. Et moi, clairement, être entrepreneur, j'ai vite compris que c'était un peu une carrière, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend aussi de plus en plus. Donc, je me dis, bah tiens, j'ai appris plein de choses avec cette première. Ils font faire une deuxième. Je voulais pas la faire dans le digital parce que ça avait quand même été chaud et le marché était encore pas très stable à cette époque-là. Et donc, après, c'est des opportunités, hein, à écouter. Et très vite, j'ai rencontré un ami d'un de mes frères qui venait de lancer une boîte et on s'est bien entendu et on a décidé de s'associer.
Alors, raconte-nous cette deuxième boîte.
Alors, cette deuxième boîte, c'est très différent. Donc, parmi les learnings de la première, il y avait de s'associer avec des gens très différents. Antoine, très bon ami de toujours.
Qui a fait des grandes choses, d'ailleurs. Ce nom n'échappe pas à l'oreille.
Qui a fait plein de bonnes choses depuis. Voilà, on était quand même très proches, on a fait les mêmes études, on réfléchissait pareil, on s'entendait très bien. Mais voilà, du coup, on avait moins de... moins d'outils à notre disposition en tant qu'association. Et donc, c'était le premier learning, c'est de s'associer avec des gens différents. Le deuxième learning, c'est qu'une boîte, c'est de la vente. Il faut vendre à ses premiers clients, il faut vendre à ses actionnaires, il faut vendre à ses premiers salariés pour qu'ils acceptent de rejoindre l'aventure, etc. Donc, j'avais trouvé que c'était un des éléments où on n'avait pas été assez performant dans la première aventure.
Parce que vous n'aviez pas encore compris ça.
Parce qu'on n'avait pas compris, parce que quand on fait une école comme HEC, la vente, c'est pas forcément le truc le plus valorisé.
C'est incroyable d'ailleurs.
Oui, ça s'appelle haute école commerciale, mais
on n'apprend pas la vente.
Pas la vente et la vente, c'est même un peu pour les autres. Parce que c'est intellectuellement pas forcément très stimulant, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et du coup, ce deuxième associé, Patrick d'Alsace, lui, c'est un gars complètement incroyable. Alors, on est très différents, et complètement incroyable sur la partie vente, relationnelle, etc. Et donc je me suis dit, bah, c'est super, au moins là, je coche les deux cases de on est différents et la vente, je vais apprendre à vendre en travaillant avec Patrick. Et cette boîte, c'était en plus une boîte dont le business model était de vendre, puisqu'on importait des produits américains pour les restaurants, qu'on revendait sur le marché français, et c'était des produits en plus non récurrents, donc des ventes one shot, donc ça veut dire qu'il fallait revendre, on recommençait tous les mois à zéro de chiffre d'affaires, et si on bossait pas, on terminait le mois à zéro.
Et par exemple, c'était quoi que tu vendais
Alors les produits, c'est assez amusant, hein. C'est un produit très métier, mais c'est un vibreur pour les serveurs dans les restaurants. qui permet au chef en cuisine d'appeler le serveur quand les plats sont prêts pour une table donnée. Donc si toi, David, tu t'occupes de la table 1 à 5, quand le chef sur son bon il voit table 4, il sort les assiettes, il appuie sur le bouton David et il sait que toi, tu sais que tu prends ta commande ou tu débarrasses l'assiette que tu es en train de débarrasser, tu passes au plat.
Et ça, c'est des trucs américains qui n'existaient pas en Europe.
Ça n'existait pas en Europe, mais voilà, quand on connaît le métier, c'est vraiment une application ultra utile et très simple, mais très pratique pour un restaurant.
Et donc ça, c'était ce que tu vendais, mais tu disais chaque semaine c'était des, ou chaque mois, c'était des produits différents, c'est ça ?
Non, c'est des clients différents, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a vendu, il n'y a pas d'abonnement, c'est un produit qui dure 10 ans dans le restaurant. Donc ça veut dire que... Ça.
Et tu vendais que au restaurant ou...
Globalement qu'au restaurant. Alors, on avait vendu un peu aux industries, etc., mais c'était quand même principalement au restaurant.
Comment tu as démarré du coup ? Enfin, comment tu avais les premiers fichiers ? Tu faisais du porte-à-porte
Ouais, alors là, c'était exactement. On appelait les pages jaunes, on envoyait des fax à l'époque. Il n'y avait pas encore trop d'emails. Hein.
Et comment tu avais eu l'idée de faire ça ?
Ah ben moi, c'est Patrick d'Alsace hein, qui avait ramené ça des États-Unis dans sa besace lors d'un voyage. Et quand j'ai rejoint l'aventure, c'était déjà ce produit-là qui était...
Et qu'est-ce que toi, t'apportais du coup dans l'association ? Patrick apportait ses skills de vendeur.
Voilà, bah moi, j'ai envie de dire, j'apportais probablement un peu de skills de marketing, un peu de skills de gestion qu'il avait aussi d'ailleurs, okay. Qu'il a toujours. Mais en tout cas voilà, j'étais plus celui, puis même de gestion, bah, du coup, j'ai fait tout le CRM, enfin... Toute la partie opération, on va dire.
Okay.
C'est plus moi qui l'apportais. Mais j'ai fait beaucoup de ventes, hein, et c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on, de toute façon, c'était un business de vente. À la fin, on était 8. Donc, de toute façon, on était sur les 8, il y avait 6 vendeurs. Moi, j'ai fait 50% de mon temps que de la vente.
Et donc, pendant.
Et ce qui est vraiment, et je le dis, c'est quand même une super école de vendre. Et moi, c'est le conseil que je donne à tous les entrepreneurs que j'accompagne, c'est de continuer à aller voir leurs clients en permanence parce qu'on apprend tellement avec une heure avec un client.
Alors du coup, pour continuer là-dessus, c'est quoi le conseil ? C'est quoi un bon vendeur ? Parce que souvent, on voit des vendeurs qui pitchent trop leurs trucs, qui n'écoutent pas le client. Mais en même temps, dire ouais, vendre, c'est écouter, c'est un peu facile, je trouve, de dire que ça. C'est quoi, toi, ton conseil un peu sympa pour...
Ouais, je pense que ce que tout le monde peut faire dans la vente, de manière méthodique, c'est en effet la partie découverte, mais c'est souvent ce qui est mal fait. Hein. Mais en tout cas, moi je disais aux vendeurs, c'est une commode avec des tiroirs. Il faut poser des questions et en fonction des réponses, il faut ouvrir le bon tiroir. Et parce que ça ne sert à rien d'ouvrir le mauvais tiroir, le gars ne va pas comprendre. Donc ça, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence que l'erreur numéro un du vendeur, c'est de parler. Quoi.
Ouais, complètement.
Parce qu'on a tous envie qu'on nous parle de nous. Moi, David, j'ai envie que tu me parles de moi, j'ai pas envie que tu me parles de toi.
C'est pour ça qu'on est là.
Là, aujourd'hui, ça tombe bien. Mais c'est une réalité humaine profonde. Donc ça, là-dessus, il y a... Et moi, les meilleurs vendeurs, c'était notre associé espagnol, Marco Salves. On plaisantait, mais lui, je passe à la fourchette, mais même pour les beepers, limite, il parlait même pas du produit. Enfin, il parlait à peine du produit, quoi. Il parlait que du restaurant, quoi. Que du restaurant, des opérations, comment ça marche, etc. Et c'est vrai que le plus beau compliment qu'on peut faire, qu'on pouvait nous faire quand on vendait, c'était à la fin quand on disait « Mais vous avez bossé combien d'années dans les restaurants ?» Et quand on disait « Ben non, pas d'années, on n'a jamais bossé dans les restaurants. »
Voilà, donc, poser les questions. Ouais.
C'était poser les questions, comprendre le métier, comprendre leurs problèmes, etc.
Okay,
et après, la deuxième partie qui est quand même la plus, où là, il faut un peu de talent quand même, c'est le closing. Où là, il faut sentir le moment où on peut faire basculer l'intérêt à signer un bon de commande et s'engager sur acheter un produit ou un service.
Donc, le conseil que tu donneras à nos auditeurs qui veulent progresser en vente, c'est essayer d'écouter plus, quoi. Encore et toujours ?
C'est une évidence. Il y a trois questions à poser. Mais des questions pas comment ça va, votre femme, vos enfants, hein. Enfin, c'est bien de le faire, mais vraiment sur c'est quoi votre métier, c'est quoi vos problèmes.
Moi, c'est ce que je raconte tout le temps parce que je donne un cours à HEC sur la vente et je leur dis quand je me suis marié, mon traiteur, il m'a pas parlé de bouffe à une seule seconde, il m'a juste aidé à trouver une salle, c'est pour ça que je l'ai pris. Et je trouve ça incroyable en fait. Et c'est le seul qui me. Il en avait rien à battre de la bouffe et il avait fait la vente, on n'avait pas parlé de bouffe une seule seconde. Je ne sais même pas si c'était bon ou pas, mais il avait fait la vente. Bref. Passons. Donc, JTech, tu fais ça pendant 4 ans. Vente pure. Qu'est-ce qui. Voilà, enfin, ça en est où au bout de 4 ans cette boîte et pourquoi.
Alors, JTech, ça se développait bien. Enfin, c'était une PME, enfin une SMBs, hein, mm-hmm. petite boîte, mais qui se développait tous les ans. On faisait plus 30% de chiffre d'affaires. Voilà, c'était globalement assez rentable. Bon, on se payait pas des points en or, mais on se payait, c'était rentable, etc. Mais la galère, c'était tu pars en vacances le mois d'août, c'est zéro de chiffre d'affaires, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'était pas très stimulant intellectuellement une fois qu'on les opérations étaient à peu près mises en place, puisque c'est pas nous qui créions le produit, c'est des produits qu'on achetait aux Américains et qu'on revendait sur le marché français.
Tu avais à la limite le petit chinage qui devait être intéressant et c'est tout, quoi.
Voilà, donc en fait, de manière assez naturelle, on réfléchissait avec Patrick à c'est quoi le prochain produit. On a essayé plein de produits, des systèmes d'enquête, d'enquête de satisfaction dans les restaurants, différents produits dans les hôtels aussi, etc. Et puis... de fil en aiguille est arrivée la fourchette, en fait, hein, qui est vraiment une émanation de JTech.
Donc, c'est intéressant parce qu'au final, on dit souvent, tu sais, que dans l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est l'exploration, c'est de trouver les problèmes de ses clients pour les résoudre. En fait, toi, tu as fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, tu parlais à des restaurateurs.
Exactement.
Pour comprendre leurs problèmes. Et à la fin, tu as dit, mais en fait, il y a ce problème-là qui n'est pas résolu nulle part, je vais créer la boîte.
Ouais, alors c'est intéressant parce que c'est en fait... finalement, c'est un problème dont ils n'avaient pas conscience, les restaurateurs. C'était plus une opportunité qu'un problème.
Alors, transition parfaite, parlons de ça. C'était quoi le problème que résolvait la fourchette, alors ? Parce que ce n'est pas forcément clair pour nos auditeurs. Moi, la fourchette, je l'ai connue, comme je pense tout le monde, parce qu'on me disait, réserve sur la fourchette, il y a des bons prix. C'est comme ça que moi, j'ai utilisé la fourchette. Avant, j'étais comme tout le monde, j'appelais le restaurant, je dis bonjour, on est deux, on va manger. Et c'est par ça que j'ai commencé à utiliser la fourchette. Donc, d'un point de vue peut-être... consommateur, c'est ça la fourchette, mais c'est pas ça en fait.
Ouais, alors la fourchette, c'est une place de marché, hein, donc évidemment, donc dans une place de marché, les deux parties sont super importantes. Donc d'un côté il y a les restaurateurs, de l'autre côté il y a les consommateurs qui vont au restaurant. Et j'aimerais dire qu'on essaie de résoudre des problèmes des deux côtés, et ce qui est toujours le cas. Mais qui sont pas forcément compatibles, ça, ce qui est un tout petit peu compliqué. Mais en tout cas, côté restaurateur. Le problème ou l'opportunité, c'est que les restaurateurs, ils prenaient toutes leurs résas dans un cahier papier. Encore en 99, encore aujourd'hui, il y en a plein qui prennent dans des cahiers papier. Le gros problème du cahier papier, alors le gros avantage, c'est que tout le monde sait écrire dans un cahier papier, puis tourner les pages, voilà. Le gros problème, c'est, l'opportunité loupée, c'est qu'on n'a aucune information sur les clients qu'on garde. Donc le jour où votre serveur s'en va, vous perdez toute l'information sur les clients. Le deuxième problème ou opportunité, c'est que c'est dur d'optimiser. Certains restaurants qui ont beaucoup de tables, il y a un moment donné, le papier, on ne peut plus lire, on ne peut pas vendre plusieurs fois la table. Quand il y a une annulation, que c'est barré, on ne retrouve pas forcément la table, etc. Donc voilà. Donc c'était plus de l'optimisation qui n'était pas faite, alors que dans les autres industries, type hôtellerie qui est proche, évidemment, ça faisait longtemps qu'on avait basculé sur des plannings en ligne et sur des bases de données clients. Donc ça, c'est côté restaurateur et côté consommateur. Et c'est là qu'est née quand même la fourchette. On avait fait un triple constat. Premier constat, c'est que c'était dur de trouver un restaurant en ligne. Il n'y avait pas de guide bien foutu en ligne. Voilà, le Michelin n'était pas du tout en ligne. Les autres guides, c'était type l'Internaute ou Cityvox, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, qui étaient des espèces de pages de référencement, enfin qui étaient vraiment des sous-annuaires avec un tout petit peu plus d'informations, mais qui étaient vraiment très faibles. Et donc ça, c'était le premier truc, c'est de dire finalement, c'est quand même ballot qu'aujourd'hui sur Internet, en 2005-2006, on pouvait trouver quand même un hôtel en ligne, il y avait déjà les bookings, les Expedia, etc. On pouvait réserver son train, on pouvait trouver le théâtre en ligne, mais finalement le restaurant, ça n'existait pas vraiment. Donc ça, le premier problème, c'est vraiment le problème de discovery, comme disaient les Américains. Deuxième problème, c'était la réservation. Pareil, alors ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop réserver au téléphone, c'est mon cas. Et il fallait d'appeler le téléphone de restaurateur à la bonne heure pour réserver. Alors qu'on pouvait déjà globalement tout réserver en ligne à ce moment-là, le train, l'avion, l'hôtel, etc. Mmh. Et le troisième problème, où là c'était plus l'opportunité, c'était de se dire, tiens, c'est bizarre que dans le secteur de la restauration, qui est aussi un secteur de coûts fixes, et en fait, plus on a de clients, plus on amortit les coûts fixes. C'est bizarre que contrairement aux autres secteurs similaires, type aérien et hôtellerie, une fois de plus, qui ont lancé les prix variables, ce qu'appelle yield management dans l'aérien. C'est bizarre que ça ne soit pas arrivé dans la restauration, alors que ça permettra aux restaurateurs de remplir des tables vides quand ils en ont besoin.
Le yield management, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le fait d'adapter ton prix en fonction de l'heure à laquelle tu prends ton vol, tu prends ton hôtel, le jour où tu prends ton hôtel.
C'est d'optimiser le taux de remplissage, c'est de se dire finalement, quand l'avion il décolle, s'il y a 10 places vides, et ben ces places-là, si je les avais vendues 20% de plus que le prix du kérosène qu'il faut pour les transporter, j'aurais gagné de l'argent. Et donc c'est la même chose dans un restaurant, de se dire ce soir, si j'ai 20 tables vides ou 10 tables vides, j'ai payé mes serveurs, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon électricité, j'ai payé mon chef. Le seul truc que je vais payer un peu de manière variable, c'est mes coûts matières, donc la nourriture et les boissons, mais qui représentent environ 25% du ticket, donc en fait c'est assez faible, et donc en fait il aurait mieux fallu vendre ces tables à 30% 40% de remise, et le restaurateur aurait gagné beaucoup beaucoup plus d'argent que de les laisser vides,
avec toujours ce risque de cannibaliser ceux qui ont payé cher, de se dire lui il a pas payé plein pot alors que moi j'ai payé plein pot.
C'est là que c'est subtil, et c'est là que j'ai envie de dire qu'au début de la fourchette le risque n'existait pas. Puisque la fourchette n'était pas connue, donc en fait c'était pas comme si tous les clients du restaurateur allaient aller sur la fourchette pour vérifier. Aujourd'hui c'est un risque évidemment qui est un peu plus fort sur la fourchette qu'il y a 15 ans, mais au début ça l'était pas.
Donc là t'as cette idée avec Patrick aussi, du coup vous vous dites quoi, on va vendre JTech et on va faire ça. Donc comment ça se passe la vente de JTech, combien de temps ça te prend?
Non, on vend pas JTech. JTech appartient toujours à Patrick. Moi j'ai vendu mes parts, mais non justement, alors c'est un peu atypique hein, la fourchette, il y a beaucoup de choses atypiques. La seule chose que je dis à Patrick à ce moment-là, c'est on ne lance le projet que si on a le troisième homme qui est le Tecos, comme on disait à l'époque, enfin le CTO comme on dit aujourd'hui. Et donc pendant un an en fait, et on avait toujours JTech, donc on n'était pas pressé. C'est vraiment une autre époque, hein, c'est la préhistoire du web. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la pression de concurrents qui levaient 50 millions de l'américain, il y avait un américain open table. Mais... Donc on n'avait pas de pression. Et moi j'avais dit à Patrick, OK, on y croyait tous les deux. On avait topé sur le fait qu'on voulait y aller, que le fait qu'on était prêt à mettre une partie de la trésorerie de JTech pour lancer ce projet-là. Donc ça aurait été de l'intrapreneuriat finalement, à notre échelle. Mais il y avait une seule condition, je lui ai dit, de par mon expérience passée, c'était de dire il faut quelqu'un de très solide sur la partie technique. Parce que comme dit Jeff Bezos, technology. Donc c'est quand même Internet, moi, je pense qu'on le sait tous, Internet sans la tech, ça va nulle part. Et donc, on a mis un an à trouver Denis Fayol, qui était un copain que j'avais rencontré dans mon expérience passée, et qui était CTO, et qui, un jour, j'ai reçu un email me disant, un email commun, hein, disant, ça y est, je quitte mon aventure actuelle, je cherche des nouveaux projets. Je lui ai répondu dans le quart d'heure en disant, Denis, il faut qu'on se voit. À la fin du repas, il était passionné, c'était quelqu'un qui adorait la gastronomie. Bon, ça, c'est l'avantage de la fourchette, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la gastronomie.
Surtout en France.
Et trois semaines après, on commençait à coder.
Et du coup, comment t'as fait la transition? Parce que c'est JTech, c'est typiquement la boîte où il n'y avait pas de récurrent, donc ça pouvait pas tourner sans travail. Comment tu t'en
fais? De toute façon, dans toutes les boîtes, on fait des trucs inutiles, hein. On le sait tous. Donc quand on a moins de temps, on les fait moins. Donc on a continué JTech, on se concentrait vraiment sur la partie vente, on abandonnait toute la partie innovation, en disant que l'innovation c'est la fourchette. Et en cherchant moins à faire de la croissance, à chercher 5 points de croissance de plus, ce qui prend toujours du temps.
Les 80-20 en fait.
Ouais, exactement. Et en fait, donc on a pendant, j'ai envie de dire, un an et demi, on a fait les deux. Mais là, pareil, la fourchette, il n'y avait pas non plus la pression, on n'avait pas d'actionnaire. Alors, on se mettait beaucoup de pression parce qu'on était trop excités par le projet, mais en tout cas, pendant un an et demi, on a fait les deux. Et puis, au bout d'un an et demi, on a levé des fonds sur la fourchette, on a spin-offé la fourchette, on a levé des fonds et on a mis l'un des employés de JTech en directeur de JTech. Et à ce moment-là, on s'est vraiment concentré à 98%, on va dire, sur la fourchette.
Raconte-nous les débuts. Alors, comment est-ce que tu vas... à la chasse, donc dans cette marketplace-là, à la fois de la supply et de la demand, donc les restaurants et les consommateurs.
Bon, évidemment, il fallait commencer par la supply. Alors là, j'ai un lot d'anecdotes de galères pas possible. Alors déjà, de manière un peu macro sur la supply, au début, comme on pense qu'on est des gens intelligents, on a voulu être intelligent.
T'as mappé par secteur.
C'est-à-dire de se dire... faut quand même pas qu'on fasse du porte-à-porte, on va pas s'en sortir, donc on trouve des gens qui vendent pour nous, il faut qu'on leverage différents canaux, etc. Ça, quand même, assez vite, on s'est rendu compte que ça marchait pas et que le seul truc qui fonctionnait, c'était appeler les restaurateurs un par un, prendre des rendez-vous, aller leur expliquer notre vision, plus que notre produit. Ça, c'est aussi important au début, je pense. Parce qu'en fait, ce qu'on a vendu, c'était plus Internet que la fourchette. Le pitch, c'était de dire, bah voilà, en fait, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas exactement quand, mais Internet, ça va devenir très important pour la restauration, comme c'est en train de le devenir pour le reste de l'économie. Et donc, nous, on propose de faire ce que font d'autres secteurs, donc de la discovery, de la réservation. Donc, en tant que restaurateur, bah, si vous venez avec nous, sachant que c'était quasiment que du coût variable, donc il y avait peu de risque pour eux, hein, bah, à ce moment-là, vous allez apprendre avec nous. Puis quand Internet sera là, une évidence, bah, vous serez meilleur que ceux qui sont en retard, quoi. Globalement, on vendait plus Internet que la fourchette. Mais il fallait le faire un par un. Et en plus, la restauration, il n'y a pas de chaîne en France, ou très peu. Il y en avait encore moins à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'on signe pas 10 restaurants par 10 restaurants. Non, c'est un restaurant par un restaurant. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on a appris. Deuxième truc qu'on a appris, c'est qu'il fallait que on était sur un business ultra local. Donc, ça, la France ne signifie rien. Il fallait raisonner ville par ville. Si t'es lyonnais, entre guillemets, pour toi, ça n'a aucune importance que la fourchette ait des bons restaurants à Paris. Ce que tu veux, c'est des restaurants à Lyon, et même tu veux des restaurants plutôt dans ton quartier ou dans le quartier de ton bureau. Donc en fait, on a un business ultra local. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'on a appris, c'est qu'il fallait qu'on se concentre sur les villes, limite qu'on se concentre sur Paris. Alors on n'a jamais été assez fort pour dire on arrête tout le reste, on fait que Paris. Mais en tout cas, pendant 5 ans après, on se concentrait sur 10 villes en France.
Il ne faut pas aussi avoir un maillage très très fort, parce que si moi je suis dans un quartier à Paris et que je veux déjeuner, je m'en fous que s'il y a un truc à 3 stations de métro, ça ne m'intéresse pas.
Alors c'est là que la partie B2C influence énormément le B2B, contrairement à du SaaS. Où en fait je peux avoir des clients partout dans le monde et peu importe le maillage, du moment que le client me paye tous les mois et qu'il est content du produit, bah, ça fonctionne. Nous, il fallait qu'on ait les clients qui soient vraiment concentrés par zone, et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur les zones géographiques, les principales villes. C'est pour pouvoir avoir assez de force commerciale pour pouvoir pouvoir densifier notre réseau. Et à Paris, il y a 12 000 restaurants, et voilà, avant le Covid, on avait 5 000 restaurants. Donc et encore, il nous en manquait 7000, je veux dire.
Au bout de combien de temps ?
Au bout de 12 ans.
Wow. Et donc, raconte-nous donc ce début. Donc, tu arrives. Il en est où ton produit quand tu commences à le vendre ?
Alors, le produit, alors Denis a été super fort. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à coder en février, et en juillet, on installe le premier resto. Il y a déjà un portail. Donc, c'est que du web, hein, à l'époque. Donc, le logiciel était en SaaS. Donc, ce qui, à l'époque, était quand même assez précurseur. Mais ce qui était quand même vraiment cool déjà pour l'installation, etc. Bah, il n'y a pas d'installation, comme on le sait, en SaaS.
Si tu fais du on-premise avec tous les restaurants, t'es pas arrivé.
Voilà. Mais par contre, ce qu'on avait mal anticipé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'Internet dans les restaurants. Donc, quand on a lancé la fourchette, quand on a commencé à commercialiser, 80% des restaurateurs n'avaient pas d'adresse email.
Ah ouais.
Donc en tout cas, on avait nous un produit qui était une vision, qui était de dire on met un logiciel dans le restaurant, ça permet d'avoir la disponibilité en temps réel, on met un portail côté utilisateur qui permet de chercher un restaurant selon des critères et de le réserver. Donc ça fonctionnait globalement au bout de, donc entre février et juillet, donc 5 mois. Mais là, il y a plusieurs galères. Évidemment, première galère, c'est que ça fonctionnait moyennement, surtout la partie logicielle. Donc, la première installation d'un restaurateur, je me rappelle très bien, c'était dans le 6e, un restaurant italien. Bon, heureusement, c'était un client copain. Mais j'ai transpiré toutes les larmes, toutes les gouttes de mon corps, parce qu'au bout d'une demi-heure, en fait, tout buguait.
Mais surtout que lui, il est obligé de passer toute sa réservation en ligne, parce que sinon ça marche pas.
C'était la promesse, ouais. En tout cas, c'était après on a changé, mais au début c'était ça. Quand on a commencé à installer, c'était de dire voilà, bah, à partir de ce soir, je vous forme, à partir de ce soir, je jette votre cahier papier.
Bah, c'est ça.
Et quand le téléphone sonne, vous prenez la résa dans le logiciel.
Sinon, il n'y a pas la dispo.
Sinon, il n'y a pas la dispo. Exactement. Donc, ça, c'était le démarrage. Donc, voilà, les deux premiers mois, il y a eu pas mal de bugs. Après, on est parti en juillet, pas mal de bugs. On part en vacances en août. Franchement, à partir de septembre, le logiciel était assez stable. En tout cas, suffisamment stable pour qu'on l'installe. Il n'était pas parfait, mais il faisait déjà bien le job.
Et déjà, dès le début, vous leur faisiez payer un abonnement ?
Bah, c'est même ce qui nous permettait d'avoir du revenu au début. C'était 49€ par mois. Mais en tout cas, c'était 49€. La promesse, une fois de plus, Moi, je suis un peu alsacien, donc j'ai du mal à vendre ce que j'ai pas. Donc sur la partie, on va vous apporter du trafic, on savait qu'on n'en apporterait pas.
Ouais, c'est pas mal.
Trafic parce que... sur le portail. Ouais. Donc on leur dit, voilà, bah, on vous vend un logiciel qui permet d'optimiser, ce que je disais tout à l'heure, vos réservations, votre base de données clients, votre plan de salle, etc. Ce logiciel, il permet à vos clients de réserver en ligne sur votre site ou sur la fourchette. Mais en tout cas, ce qu'on vous vend, c'est vous payez 50 euros par mois pour l'optimisation et les clients qui viendront de notre site, vous les payerez que s'ils viennent. Donc c'était du variable, c'était à l'époque où on a commencé à 50 centimes par couvert, on est très vite monté à 1 euro, puis après ça a été 2 euros assez vite aussi.
Donc à chaque fois qu'il y avait une réservation qui venait de ton site, le restaurateur te rétrocédait 2 euros.
Ouais, c'est ça.
Ok, tu faisais une facture à la fin du mois, virement c'est pas...
Exactement.
Okay. Et donc, comment ça prend au début? T'as mis du temps avant de vraiment que ça marche bien, non?
Ça a mis 3 ans. Je sais pas, j'avais appris à l'école qu'au bout de 3 ans, une boîte soit elle fermait, soit elle marchait.
Ah ouais? J'ai entendu ça.
Et nous, ça a mis 3 ans et demi.
L'amour dure 3 ans.
Nous, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Donc pendant 3 ans, la croissance était globalement rajouter peut-être 30 restos à 50 balles par mois. Enfin voilà, donc 1500 balles de.
Et t'arrives à te payer là pendant
de MRR. Alors nous, on se payait au début, on se payait sur JTech. Donc,
okay.
C'était. Et puis. Mais donc la croissance était. Voilà, on rajoutait peut-être 2000 euros de MRR par mois. Donc au bout de 24 mois, ça fait 5. Non, c'était moins que ça. Non, 1000 euros maximum par mois, plus le churn. Enfin, bon. Je pense qu'au bout de 3 ans, on était peut-être à 30 000 euros de revenus mensuels.
Ok.
Donc, c'était vraiment en dessous de notre business plan et de ce qu'on avait vendu aux actionnaires. Et puis surtout, on commençait à se dire... Enfin, il faut qu'on trouve. Qu'on n'a pas trouvé, en fait. On se disait... Alors, on n'avait pas la notion de product market fit. C'était moins... Ouais. Tout était moins théorisé à l'époque. Mais intuitivement, on se disait, en fait, on n'a pas trouvé le truc. On n'a pas trouvé le truc parce que autant la partie logicielle, on arrivait à le vendre, on arrivait à l'installer. Autant, en fait, ce qui décollait pas, c'était la partie B2C.
Et tu avais levé combien auprès de qui au début?
On avait levé, je ne veux pas dire de bêtises, hein, parce que je ne me souviens plus exactement, mais c'était de l'ordre entre 5 et 600 000 euros auprès de Business Angel.
Ok.
Voilà. Donc, et en fin 2008, donc il faut bien comprendre que 2008, c'est aussi Lehman Brothers.
Ah ouais.
Et là, deuxième en fait, on avait signé une levée de fonds avec Pierre-Edouard Sterrin, hein, qui est le fondateur de Smartbox et qui avait pas encore monté le fonds Antium. On était son premier investissement, on va dire, un peu structuré en startup. Et on avait dû se mettre d'accord en octobre. Et c'est vrai que bon, il y a juste après, il y a Lehman Brothers. On a dû se mettre d'accord en septembre. Enfin, juste avant Lehman Brothers. Après, il fait la due deal qui dure quand même assez longtemps. Et puis, on n'avait qu'une seule crainte, c'est qu'ils nous disent le 15 décembre, bah, les gars, ça ne les vaut pas, soit à cause de la due deal, soit à cause du contexte, mm-hmm. on dirait, économique global. Et à ce moment-là, on savait, nous, qu'on ne pourrait pas payer les salaires de janvier si on n'avait pas, si on ne levait pas, quoi.
Combien vous étiez dans la boîte, là, à ce moment-là?
Ouais, je dirais qu'on était allez, peut-être une dizaine, mais
une dizaine, donc,
c'était quand même 10 salaires.
Il y avait quoi? Il y avait,
ouais, y avait peut-être 2 techs, 3 commerciaux, probablement 2 personnes, enfin on va dire une personne pour l'admin, je ne me souviens plus, peut-être une personne pour le service client, ça restait petit. Hein.
Okay.
Mais en tout cas, voilà, et Pierre-Edouard, merci une fois de plus, je l'ai dit plusieurs fois, mais peu importe Lehman Brothers, peu importe ce qu'il a découvert dans la due diligence, il nous a globalement, fin décembre, on avait les sous sur le compte, on a pu payer les salaires en janvier et on a pu continuer à chercher ce fameux product market fit et on tentait tous les 3 mois, on tentait quelque chose de nouveau. On a essayé de passer par les concierges d'hôtel. On a essayé de problèmes de fidélité. On a essayé, voilà. Et en fait, là, c'est vraiment la grande leçon. S'il y avait une leçon de la fourchette, c'est celle-là. C'est une leçon très basique, mais c'est la valeur créée pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, autant la notion de pouvoir réserver en ligne aux États-Unis, en Angleterre, avait de la valeur, parce qu'on s'est aussi inspiré de boîtes anglo-saxonnes qui fonctionnaient très bien. Juste sur ce principe-là. Autant dans les pays latins, France, Espagne, Italie plus tard, réserver un restaurant, ce n'est pas une galère. La plupart du temps, sauf quelques rares tables. Et donc, en fait, ce n'était pas suffisant comme valeur créée pour le consommateur, comme pain, enfin comme douleur, on va dire, guérie. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'on a ressorti notre idée qu'on avait depuis le début, mais qu'on a retravaillé de promotion. Et un peu par accident et conviction, On est passé de promotion à 10%, coupe de champagne offert, dessert offert, à des promotions à 30, 40, voire 50%.
Comment t'as fait pour imposer ça, enfin, pour convaincre...
Alors nous, la fourchette, on n'a jamais rien imposé.
Convaincre les restaurateurs, ouais.
On avait une vision au début du business, les contrats étaient à durée indéterminée, c'est-à-dire que le restaurateur pouvait s'arrêter au bout d'un mois. Enfin voilà, on a toujours dit, bah, si le restaurateur ne veut pas travailler avec nous, ça ne sert à rien que ce soit la plateforme, parce qu'à la fin, le client ne sera pas satisfait. Donc, non, bah, c'est ce que je dis, c'est un peu par accident. C'était au mois de juillet. L'été, c'est... Enfin, à cette époque-là, il y avait plein de restos à Paris qui n'étaient pas très contents de l'été parce que les Parisiens commençaient à partir, les touristes, ils n'étaient pas seulement dans les quartiers touristiques, donc ils savaient que ça allait faire un mauvais mois. Et en discutant avec un restaurateur un soir, autour d'un verre, on arrive à la conclusion que lui, il voulait relancer son resto qui pourrait faire un moins 50% sur la carte. Ça, c'est très important. C'est un petit détail que les utilisateurs de la fourchette connaissent bien, mais c'est pas une remise sur les menus ni sur les poissons, ouais. C'est que sur la carte.
Et est-ce que le fait que tu aies eu plus de trafic au bout de toutes ces années sur ton site a été aussi l'élément qui a fait que tu pouvais pousser des réductions, parce que si tu le faisais au début, ça ne servait à rien.
Et exactement. En fait, on avait quand même un site qui était bien meilleur qu'au début, parce qu'on l'avait optimisé comme on pouvait.
En SEO, tout ça ?
Ouais, en SEO, mais aussi en conversion. Enfin, voilà, on a toujours... Amazon a toujours été une grande inspiration pour nous. On voulait que ce soit ultra simple, frictionless. On avait à la fois plus de restaurants quand même, hein, ce fameux maillage dont on parlait tout à l'heure. Donc on commençait à Paris, peut-être avoir 500 restaurants. Donc c'était quand même déjà une bien meilleure offre qu'au début, où quand un client arrivait sur la fourchette, il y avait 20 restaurants sur Paris. Donc forcément, il était ultra déçu, quoi. Et enfin, on avait aussi quand même peut-être 100 000 membres à Paris. Et c'est évidemment ce que j'ai vendu au restaurateur. Je lui ai dit, si tu me fais un 50%, je te balance l'offre sur 100 000 membres dès demain, quoi. Et donc, quand on annonce 50% de remise à 100 000 Parisiens
ça marche.
Dans un resto, bah, en fait, il se trouve que ça a marché. Et du coup, là, on a obtenu une interview de ce restaurateur-là dans le canard de la restauration qui s'appelle l'Hôtellerie Restauration, le journal magazine. Et on a très vite rédigé un livre blanc sur le yield management dans la restauration. Et on a été voir quelques restaurateurs qui nous appelaient. On leur a dit, ah bah tiens, on a fait ça, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, on essayait d'être un peu subtil, parce qu'on s'est pris quand même des énormes claques. Parce que dire à un restaurateur qu'il faut qu'il fasse moins 50% même sur la carte, c'est quand même, c'est quand même l'insulter. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et de fil en aiguille, on a peut-être eu 6 promotions en août. Mais avec 40 ou 50%, mais qui ont bien fonctionné. Puis après, grosse flip de se dire, ouais, mais c'était lié à l'été, donc ils vont tous arrêter. En fait, ils ont tellement aimé qu'ils ont continué. Puis après, on a eu de plus en plus de restaurateurs. Et voilà, ça a fait effet boule de neige, puisque comme les restaurateurs savaient que, en fait, maintenant, la fourchette apportait des clients, c'était plus simple d'aller signer d'autres restaurateurs aussi, parce qu'on n'avait plus uniquement la promesse de dire...
Il y avait
dire,
bouche à oreille côté consommateur. Oh là là, t'as pas vu, tu peux avoir des bonnes réductions. Moi, c'est comme ça que j'ai connu la fourchette, je pense, comme beaucoup de personnes.
Exactement. En fait, et c'est le fameux truc où pour qu'un consommateur change d'habitude, il faut vraiment lui apporter une valeur très supérieure à son habitude, parce qu'il prend un risque. Et parce qu'un changement d'habitude, c'est un effort.
C'est ça.
Et donc, si c'est un incrément de 10% de mieux, le consommateur va dire, mais pourquoi je prends un risque? Pourquoi je vais m'emmerder pour ça? Si c'est un incrément de 50% de remise, là, c'est un incrément qui est suffisant pour que le consommateur prenne le risque et parle autour de lui.
Et ça, c'est super méga intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les entrepreneurs qui se lancent, ils sous-estiment le changement d'habitude. C'est un vrai coup. Changer pour toi, c'est comme la fois j'écoutais un podcast, le gars disait, moi j'avais créé comme Google, c'était 10% de mieux que Google, mais en fait 10% de mieux que Google, ça suffit pas, parce que les gens, ils ont Google, ils vont pas changer d'habitude pour avoir 10% de mieux. Si tu fais 3 fois mieux, là ils vont changer. Mais et c'est exactement. Ça c'est souvent sous-estimé dans les propositions de valeur. Les gens pensent que parce que c'est un tout petit peu mieux, tu vas l'utiliser,
sachant qu'en plus après on pense que c'est un peu mieux, mais
par ailleurs, en plus de ça, c'est subjectif. Mais même, quand bien même ce serait vrai...
il faut que ça soit beaucoup mieux. En tout cas, en grande conso.
Hyper intéressant. Donc là, à ce moment-là, le moment où tu mets en gros cette fonctionnalité, on peut appeler ça comme ça, là, boum, la courbe s'infléchit et c'est la folie.
Ouais, bah, mois d'août 2009, 600% de croissance year over year sur les raisins.
Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Parce que j'imagine que t'es pas du tout prêt à une telle croissance qui vient du jour au lendemain sans vraiment t'y attendre, ou en termes de process, etc.
On partait
etc.
de très bas, hein, donc ouais. 600% sur très bas, ça restait pas non plus la folie. Non, la petite anecdote qui est assez drôle, c'est qu'on avait décidé en juillet, enfin on avait basculé tout le service client en juillet à Barcelone, où on avait des bureaux, parce qu'on avait ouvert l'Espagne très vite aussi, bon, pour d'autres raisons. Et on avait des bureaux libres à Barcelone, et en fait on avait des services clients en Espagne et en France, et on se dit c'est complètement débile parce qu'on a des toutes petites équipes, elles peuvent pas faire toutes les heures. Et il se trouve qu'à Barcelone il y a plein de Français qui parlent espagnol et français, et qu'on avait un bureau libre, donc, enfin on avait 40 mètres carrés de libre, donc on s'est dit bah, je vais embaucher 3 personnes qui tourneront à Barcelone pour faire le service client français et espagnol. Et donc c'est très drôle parce que le 10 juillet je vais les former, ces 3 personnes là en une demi-journée, hein, c'était en mode lean, hein. Et je leur dis bon, de toute façon le mois d'août ça va être ultra calme, donc je leur balance une liste de tâches comme ça administratives, de revoir toutes les fiches, de récupérer du contenu, etc. Et puis le 5 août elles m'appellent, elles me disent mais Bertrand, tu m'as dit que c'est ultra calme, qu'est-ce qui se passe, on a toutes les réseaux à gérer, tous les tickets à gérer, etc. Bon, la petite histoire, elles étaient tellement efficaces qu'elles ont quand même fait les tâches en plus de la croissance. Mais donc non, oui, les opérations, forcément il y avait besoin de plus d'opérations, mais on était justement équipés avec un seul endroit, donc on a recruté très rapidement d'autres personnes, donc ça se faisait plutôt bien. Puis c'était pas non plus 100 personnes, hein, on parlait de on est passé peut-être de 3 à 10 personnes aux opérations en 6 mois. Et après, bon, la plateforme technique, elle tenait très bien. J'ai envie de dire que non, à ce moment-là, on était sur l'étincelle. Il n'y a pas eu d'enjeu de scalabilité. C'est après que.
Et du coup, là, quand tu vois cette étincelle, c'est quoi ton premier réflexe? Te dire, OK, il faut relever des fonds, là, c'est bon, on a trouvé quelque chose.
Non, parce que, une fois de plus, c'était pas du tout. Non, c'est un grand ouf de soulagement, déjà, le premier truc. C'est un grand bonheur d'être en vacances. J'étais en vacances à ce moment-là et de voir son business enfin décoller et puis de se dire ça y est, on a trouvé quoi. Enfin, ça y est, c'est bon quoi. Mm-hmm. Et je me rappelle même d'avoir dit à mes associés, mais ça, c'est un truc, ça nous arrivera une seule fois dans notre vie. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut. Enfin, là, c'est...
On tient.
En tout cas, sur ce business-là, évidemment, sur d'autres business, ça pourra nous arriver d'autres fois, mais en fait, un tel gap en si peu de temps, juste en tweakant quelque chose, parce qu'on avait déjà des offres, on avait déjà tout, hein, le site était exactement le même, etc.
T'as trouvé la solution de l'énigme quoi.
On a trouvé la solution de l'équation de ce business là, donc maintenant il faut juste tout améliorer en permanence pour que ça continue.
Et ça t'a pris 4 ans de JTech et 3 ans de la fourchette, donc 7 ans pour penser à ce truc qui a l'air évident une fois que t'as trouvé. C'est fort.
Ouais, qui était dans l'intuition de la fourchette au démarrage, mais c'est aussi pour ça que je dis que le dans une place de marché, c'est important de savoir qui est son client, malgré tout. Est-ce que c'est le restaurateur ou est-ce que c'est le consommateur?
Quand tu dis qui est ton client, c'est-à-dire qui est la personne clé, quoi.
Ouais, exactement. Qui est celui qui gagne quand t'as un conflit, entre guillemets. Quand tu prends une décision et que tu dis, bah, si je prends la décision A, c'est le consommateur qui va être content. Si je prends la B, c'est le restaurateur qui va être content. Alors évidemment, c'est toujours un équilibre, c'est une place de marché. Les deux sont les clients. Mais en fait, nous, on s'est quand même assez vite dit, non, mais si le consommateur n'est pas content, de toute façon, il n'y a pas de business.
Ouais.
Donc, il faut qu'on soit prêt à faire des trucs où le restaurateur, au début, il n'est pas d'accord. Mais parce que ce que veut le restaurateur, c'est des clients. Ça, on l'a très vite compris. À chaque fois, pendant les 15 ans, à chaque fois qu'on leur posait la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?», le restaurateur nous disait « Du personnel et des clients ». Nous, on n'était pas sur la partie staffing.
Ouais.
Mais en tout cas, ce n'était pas des logiciels pour optimiser mon truc. C'était pas non, ça, en fait, c'est hyper secondaire. C'est comme tous les business. Un business, il veut du chiffre, il veut du client. Donc, en fait, pour avoir des clients, bah, il fallait créer une offre qui soit très attractive pour les clients. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours choisir, il faut quand même choisir son combat.
Parlons un peu de cette phase de scale qu'on va appeler maintenant. Combien de temps ça a duré jusqu'à la revente? Comment ça s'est passé? Quelle galère t'as rencontré?
On a vendu en 2014, donc ça a duré 4 ans. Parce que, globalement, là, on est fin 2009, hein. Et donc le scale, ça a été c'est là qu'on se rend compte qu'en fait tant que c'est petit et qu'on galère, c'est tous les jours la même chose, c'est toujours la galère, mais il y a pas de gros changements parce que les équipes grossissent pas beaucoup, le business grossit pas beaucoup, donc on est dans la phase créative. Mais on fait tous les jours la même chose, c'est de créer quoi, enfin d'être créatif et de réfléchir et de se poser des problèmes. Quand on arrive dans cette phase là en fait, on a vite compris que en effet le business avait complètement changé de nature et qu'il fallait juste accompagner la croissance, Et c'est là que j'ai envie de dire que les deux gros enjeux, un peu évidents en tout cas pour nous, ça a été la tech et le staffing. Enfin, les équipes, quoi. Donc sur la partie tech, ça a été une énorme galère, probablement la plus grosse galère de la fourchette. On a voulu refaire la plateforme qui avait été quand même bootstrappée assez rapidement par une personne. Et on s'est dit, on peut faire mieux. Et puis on voyait bien qu'on allait grossir. Donc en fait, on s'est dit, enfin, comme tout le monde qui grossit, tu sais bien qu'à un moment donné, ça va péter. Et on a été de mauvais choix technique. Et on s'est retrouvé après un an et demi de boulot pour tout refondre avec une plateforme où le jour où on la lance, techniquement ça fonctionnait à peu près, mais consommateur pas satisfait, restaurateur pas satisfait, et surtout baisse des réservations de 20%, quoi.
Ok.
Donc là c'est gros, énorme galère. Et puis la tech, enfin bon, comme ceux qui écoutent ce podcast le savent probablement, c'est pas deux jours de boulot pour rectifier. Enfin, surtout que c'est pas que de la tech, c'est aussi de la UI, de la UX, etc. Et donc voilà, donc ça fait partie des gros enjeux. Et on a fait une V3 de la plateforme qui est sortie il y a un an, parce qu'on s'est jamais sorti de cette V2, quoi. Okay. Alors on s'en est sorti à la marge, mais ça n'a jamais été une plateforme qui a tenu ses promesses d'un point de vue. Elle pourra nous emmener à 1 milliard de chiffre d'affaires, quoi.
Et au-delà de ces galères techniques, tu as eu des galères RH aussi dans ce scale,
Ouais, des, bah des mauvais choix. Les galères RH, c'est un peu le... Bon, déjà, c'est que tu es toujours en retard sur le recrutement. Et ça, pour le coup, je connais plein de boîtes où c'est comme ça. Enfin, parce que recruter, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au début, en tout cas, tu sous-investis là-dessus en disant « Non, mais les managers vont recruter, business as usual, etc. » Et en fait, tu as tel besoin de recrutement que ce n'est pas du tout humain pour un manager de manager son équipe, plus de recruter l'équivalent en FTE chaque année de son équipe. Donc ça, c'était évidemment première galère. Deuxième galère, c'est de structurer, d'organiser correctement. Alors, il n'y a pas d'organisation parfaite, mais en tout cas, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et là, l'erreur que tout le monde fait, c'est de se dire, lui, il performe bien, je vais le nommer manager.
Alors que non, c'était juste un vendeur.
Alors
et
qu'en
il
fait,
veut
c'était
vendeur,
un expert et que, ouais, il avait envie d'être manager, mais et puis tu le formes surtout pas parce que tu te dis que manager, il va prendre sur le tas. Donc c'est pas forcément mettre les bonnes personnes au bon endroit, c'est quelques erreurs de recrutement. Mais après, c'est surtout que, et c'est toute la partie culture où jusqu'à 50 personnes, la culture, elle est évidente. Tout le monde parle tous les jours avec les fondateurs qui, eux, la culture, ils n'ont pas besoin d'en parler pour que les gens la connaissent, etc. Et puis après, tu es dans plusieurs pays et puis tu passes à 100, à 200, à 300. Et à la fin, avant le Covid, on était 1100 à la fourchette. Hein. Et donc là, la culture, elle n'est plus du tout évidente et ça crée des vrais conflits internes entre ceux qui... ceux qui essaient de respecter la culture de base et ceux qui l'ont pas forcément comprise.
Deux questions là-dessus. Est-ce que tu confirmes qu'à chaque fois que tu doubles de nombre, faut changer tous les process et c'est la merde? Et deuxième question, quel conseil tu donnes aux boîtes qui grossissent justement pour ça?
Alors, première question sur les process. Je pense qu'il faut surtout essayer d'anticiper les process pour grossir, quoi. Donc c'est sûr que si à chaque fois tu fais les process pour l'étape, à chaque étape tu dois les changer. Je pense qu'il est possible et nous on n'a pas du tout assez investi sur tout ce qui est outillage. C'est process et outils, hein. Les deux vont ensemble, mais aujourd'hui un conseil quand on commence à scaler, c'est vraiment d'investir beaucoup sur l'outillage et beaucoup sur tout ce qui est
le bon CRM,
sales ops, marketing ops, tout ce qui est ops. Qui est vraiment un mix entre
HubSpot, quoi. C'est ça que...
Ouais, exact. Mais c'est aussi les process, c'est aussi le training, c'est aussi, enfin voilà, c'est tout ce qui va. Mais les outils sont quand même souvent au cœur de ça parce qu'ils facilitent beaucoup les process. Et il faut des équipes dédiées à ça. Les anciens consultants sont très bons pour ça. Enfin, hein, qui savent, voilà, analyser un process, le cartographier, l'optimiser, mettre l'outil qui va bien et le transmettre à ceux qui arrivent. Donc ça c'est pour la partie process. Et après les conseils, c'est quand même vraiment d'essayer de définir sa culture. Alors la culture, c'est un gros mot dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Et la culture, c'est pas ce qu'on veut, c'est qui on est et ce en quoi on croit, en tant que fondateur. Donc c'est pas forcément très compliqué, c'est vraiment de se dire quelles sont mes convictions profondes et s'il y a des trucs où je reconnaîtrais plus ma boîte si ça y est plus, c'est ça, quoi. Et ça, il faut l'expliquer en permanence. Et quand il y a des dérives, il faut organiser certains process en fonction de ça. Et quand il y a des dérives, il faut absolument les corriger parce que ça peut aller assez vite. Et puis enfin, c'est là-dessus, c'est aussi l'organisation. Il faut aussi être très clair avec tout le monde que une boîte qui grossit à cette vitesse-là, l'organisation change tout le temps. Et que donc il faut accepter le changement, et plus on est gros, plus le changement est compliqué. Et ça, c'est une leçon, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous on est biberonné au changement, on adore ça. Et,
ouais. C'est limite l'inverse, si ça change pas, on a l'impression.
On est inquiet, et puis en plus, en tant que patron d'une boîte, de toute façon, le changement, si c'est toi qui le décide, ou en tout cas à la fin, in fine, c'est toi qui le décide, tu l'as compris, tu l'as déjà intégré quand il se met en place, alors que ceux qui sont à 3, 4 échelons en dessous de toi, en fait, ça leur arrive, et ils disent, mais c'est quoi ce bordel, je comprends rien, on me donne pas le contexte. Donc c'est à la fois créer cette culture du changement permanent. Donc ça, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas parce qu'on change de job, etc., que c'est mal. Et aussi, investir énormément dans le changement, ne pas négliger que, c'est comme le consommateur, le collaborateur, il n'aime pas le changement, c'est anxiogène, ça lui semble un risque. Et donc, il faut donner le contexte, il faut prendre le temps d'expliquer. Évidemment, il faut que ça vienne au maximum de la base, mais c'est quand même pas toujours possible. Les grands changements d'organisation, quand on décide de réorganiser, ça vient pas toujours de la base, c'est qu'on se rend compte que ça fonctionne pas, que le marché a un peu changé, qu'on veut investir plus dans une partie. Enfin,
yes. Parle-nous maintenant un peu de la revente. À quel moment tu te dis que tu veux revendre ? Est-ce que tu te dis pas que tu veux revendre, mais t'es contacté ? Raconte-nous un peu cette phase qui est la phase de rêver en fait de tout entrepreneur, on va dire, peut-être. Raconte-nous ça.
Alors moi, c'était pas forcément mon rêve. J'avoue que je voulais plutôt garder la boîte, éventuellement l'introduire en bourse un jour. Et puis j'étais avec mes associés, a priori, on était sur la même longueur d'onde. Mais ça a été un mix d'opportunités et aussi du rôle des actionnaires qui ont dit « on pense que c'est le moment de vendre ». Voilà. Opportunité parce que grâce à Patrick Azzaghi là, qui a fondé Foodchéri ensuite et qui s'occupait du marketing pour La Fourchette à ce moment-là, en fait on a commencé à avoir un peu d'inbound, lui via son réseau en discutant, etc. Et après les actionnaires ont dit, quand il a commencé à avoir un peu frémir, on dit en fait on pense que c'est le moment pour vendre. Et il y a deux grandes raisons pour ça. La première, c'est que les marchés sont hauts. Alors ça, c'est une leçon vraiment basique. Mais plus les bourses sont hautes, plus les acheteurs qui sont cotés, parce que c'est quand même souvent des boîtes cotées pour acheter des boîtes à ce prix-là,
ils veulent t'acheter.
Peuvent acheter cher parce qu'en fait, leurs multiples sont plus élevés, donc ils peuvent payer un multiple plus élevé. C'est pas compliqué. Il y a une boîte qui va valoriser 10 fois son chiffre d'affaires. S'ils rachètent une autre boîte 8 fois le chiffre d'affaires, ils vont tout de suite faire une petite plus-value de 8 à 10.
Ils gagnent de l'argent.
Une boîte qui est valorisée 6 fois le chiffre d'affaires, si elle achète 8 fois le chiffre d'affaires, sa valeur va baisser, quoi.
Il y a beaucoup ça dans les agences aussi.
Donc ça, c'est un truc très basique. Et c'était vraiment... alors, les marchés sont hauts encore, mais c'était... Voilà, là, on parle de 2014. Il y avait quand même... c'était l'époque de Groupon très élevé, Yelp aux US. Je parle des boîtes dans notre quartier, entre guillemets. TripAdvisor qui a fini par nous racheter, qui avait aussi une valorisation très forte. Booking.com déjà très fort, etc.
Là, ils viennent tous te taper à la porte en mode...
Non, alors là, ce qu'on fait, c'est comme les investisseurs, là, les fonds d'investissement disent « Ok, nous, on pense qu'il faut vendre. Mais par contre, on n'était pas pressé, on était break-even, on avait du cash. Meilleure situation pour vendre, évidemment. Ouais. » Et là, ils ont été très respectueux de nous. Et nous, on a dit « Ouais, mais on ne veut pas vendre à n'importe qui. » Donc, on a fait une shortlist d'une petite dizaine de boîtes. Avec qui ça avait du sens aussi, synergie, parce qu'une boîte ne rachète pas comme ça pour racheter. Elle rachète s'il y a des synergies. Et puis, on a pris une banque new-yorkaise qui conseillée par l'un des fonds d'investissement. Et la vente s'est faite. Alors, le process, une process de vente, c'est un peu comme un process de levée de fonds. On fait un deck. On envoie le deck, pas des investisseurs, mais à des acheteurs potentiels. Et puis, on leur dit, il y a 3 semaines, il y a un timing. Là, je crois qu'on avait dit il y a 3 semaines pour les questions. Et il faudra mettre une offre, si vous êtes intéressé, dans 3 semaines. Donc là, on a eu 3-4 boîtes qui ont posé des questions.
C'est une sorte d'enchère fermée.
Ouais, c'est une sorte d'enchère fermée. Le truc qui a été fascinant avec La Fourchette, que personne n'a compris, enfin, tellement ça a été vite et simplement que les fonds d'investissement étaient hyper inquiets. Ils se sont dit, il y a un énorme loup, on ne le voit pas. C'est que nous, donc TripAdvisor, au bout de 2 semaines et demie, ils sont venus à Paris. Le fondateur, Steve Coffer de TripAdvisor, est venu à Paris. Enfin, il m'envoie un mail. Alors ça, c'est... Il y a eu 2 grands moments dans la fourchette pour moi. Il y a le moment où on a fait 600% de croissance après 3 ans de galère. Et le moment où je reçois l'email de Steve Coffer, qui était un gars que j'admirais beaucoup. J'avais pas mal, moi, suivi TripAdvisor, l'histoire, etc. Et qui m'écrit un mail absolument génial en me disant, j'ai lu ton deck, Bertrand, le business est génial, incroyable tout ce que vous avez fait. On reçoit le mail le mardi après-midi, il me dit, je peux être à Paris jeudi, est-ce que tu aurais un peu de temps pour moi pour en parler?
Oui, on va trouver.
On va trouver un peu de temps. Donc il est là le jeudi, et le jeudi soir on dîne ensemble. Jeudi après-midi il pose plein de questions, j'étais hyper flippé parce qu'il pose des questions tellement intelligentes, j'avais jamais eu des questions aussi intelligentes sur le business. Je me dis, mais c'est pas possible, il veut lancer le business, en bon français, qui pense qu'on veut,
il veut me niquer.
Il veut me niquer, exactement. Et c'est ce que j'ai dit aux actionnaires. Je dis, mais attends, il était tellement bon sur le business, à mon avis, il est en train de le lancer, il voulait juste prendre de l'info et tout. Et à la fin du dîner, enfin, entre le fromage et le dessert, il nous regarde, il nous dit, c'est bon, notre due diligence est faite. Enfin, due diligence business, hein, pas, évidemment, pas la partie legal, accounting, etc. Et tu nous donnes ton prix. Si on dit oui, si ça nous va et qu'on dit oui, le deal est fait. Et il ajoute, 99% des boîtes à qui on est rentré dans une discussion, on a fini par les acheter, on n'est pas du tout, il n'y a pas de loup, on est des gens sérieux. Et il dit, par contre, on ne veut pas d'enchères. C'est-à-dire que c'est toi qui nous donne le prix.
Et on dit oui ou non.
Et on dit oui ou non.
Oh là là là, tu dors pas bien là. Tu dois donner le prix de ta boîte.
Ouais, bah là tout de suite, après le dîner, on appelle le board. Enfin, on les appelle pas, mais on leur met un mail en disant voilà ce qui s'est passé, on se parle demain à 9h, etc. D'ailleurs, j'étais avec un des board members, enfin Antoine Fraisse qui était board member. Et puis là, c'est là que le banquier joue un très bon rôle. Hein. C'est-à-dire que lui, en 3 jours, il nous a eu une offre d'un autre.
D'accord.
Et ce qui nous a permis, et puis on a refait un petit board, voilà, c'était le lundi après-midi, hein, donc 5 jours après la venue de Steve Coffer. Je me rappelle très bien parce que j'étais en vacances au ski, j'étais revenu. Et puis on décide de faire 40% au-dessus de l'offre qu'on avait reçue. Et on met un mail à Steve Coffer, et là pour le coup, je dors très mal.
L'attente la plus longue.
Ouais. Et à 2h du mat, donc heure française, hein, 6h heure américaine, juste avant qu'il quitte le bureau pour lui, parce qu'il quitte tous les jours le bureau à 6h, Steve Coffer, toute sa vie. Ça, c'est un bon learning. Hein. Il a monté une boîte qui a valu 12 milliards au Nasdaq.
À quelle heure d'arrivée
Il me met un mail en me disant merci beaucoup Bertrand, écoute, c'est un peu cher, mais good. Et voilà. C'était vendu. Et il nous dit, par contre, on est assez pressé, donc on t'envoie des gars. Donc là, c'était lundi soir, enfin, mardi matin, heure française. On t'envoie des gars mercredi qui commenceront la due diligence jeudi. Parce que nous, on voudrait avoir fini d'ici jeudi d'après. Donc en fait, en 2 semaines.
Pourquoi il était aussi pressé
entre le moment où on a reçu l'email et la signature du Sales Purchase Agreement, donc le contrat de vente, il s'est passé 2 semaines et 2 jours. Et ça a été une vente full cash, pas d'earn out, zéro earn out, full cash. Donc ça aussi c'est un autre learning, mais c'est pas une galère.
Le earn out, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu rachètes une boîte et tu dis je te donne une part variable qui va dépendre des résultats de la boîte 1 an, 2 ans, 3 ans après la vente, de manière à ce que toi tu sois incentivé à continuer à bien bosser pour la boîte. Et tu as vendu dans un business plan des chiffres que tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, et si tu les tiens, ben tu gagnes de l'argent. Comme ça te permet d'aligner un peu les intérêts de tout le monde.
Ouais. Alors ça, c'est le management à la française, par la terreur. Alors que les Américains, eux, ils disent, ils m'ont dit tout de suite, moi, bah, si tu veux pas rester, tu restes pas. Si tu veux rester, je veux que tu sois ultra motivé à développer cette boîte. Et surtout, comment je peux te motiver si je te paye moins que les actionnaires qui n'ont rien foutu à part mettre du pognon pour amener la boîte alors que c'est toi qui as tout fait? Pourquoi je te payerais moins au moment de l'achat que l'actionnaire qui, lui, a juste mis son pognon? J'ai trouvé ça très intelligent. Quand on a fait partie de TripAdvisor, on a racheté 7 boîtes, donc la fourchette. On a fait une fois earn out, 2 fois. Et à chaque fois, c'est les earn out qui ont été les galères.
Ouais.
C'est-à-dire que les boîtes qu'on a qu'on a racheté sans earn-out, ça s'est toujours très très bien passé. Et d'ailleurs, le nouveau CEO de La Fourchette est un des gars qu'on a racheté en Italie. Donc 7 ans après, qui est devenu CEO de La Fourchette. Les gars à qui on a fait le earn-out, ce n'est pas que ça soit mal passé d'un point de vue humain, mais on a discuté en permanence du earn-out.
Okay.
Et les boîtes ne se sont pas plus développées ou moins développées. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas du tout corrélé. Parce qu'en fait, le problème du earn-out, c'est que ça désaligne.
Mmh.
En tout cas, dans une logique de synergie, quand on rachète une boîte pour la fusionner avec une autre. Évidemment, si on rachète un actif qui reste indépendant, ça peut fonctionner. Mais dans une logique de synergie, le earn-out est un non-sens absolu parce que de toute façon, ça va bloquer en permanence. Parce que si on fait un earn-out sur le chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires de quoi ? Parce que si on fusionne les actifs, ça devient le chiffre d'affaires des deux actifs et de la synergie, etc. Donc, voilà, le earn-out, grosse galère.
Et donc, à ce moment-là, donc vous êtes trois associés, qui reste, qui part ? Pourquoi tu restes ?
Ouais, bah moi, je décide de rester. Denis était déjà parti à la série B. Patrick décide de partir à ce moment-là. Là, chacun vit sa vie, j'ai envie de dire. Mais pour la petite anecdote de la galère aussi là-dessus, c'est quand même la veille où le dimanche soir, là, juste avant de signer le Sales Purchase Agreement, on reçoit un coup de fil de Bercy sur mon portable nous disant oh, « On est quand même très embêté que vous vendiez La Fourchette à une boîte américaine, on a appris, etc. » Alors heureusement, je crois que c'était le week-end de l'Ascension, je sais pas quoi, donc finalement tout ça est parti dans les oubliettes. Mais là, on s'est dit ah non, c'est pas possible.
Mais ils ont pas le droit de te bloquer de toute façon.
Ils ont pas le droit, mais c'est toujours la même chose. On s'est dit les Américains, ils vont prendre peur. S'ils apprennent ça, ils vont commencer à poser des questions, etc. Bon, finalement, ça s'est pas transformé.
Mais... Ils ont juste dit ça nous embêterait. Ils ont pas dit on peut vous le racheter, nous l'État ou via.
Non, ils ont dit est-ce qu'il pourrait y avoir une solution française ? Donc est-ce qu'on pourrait le vendre à une boîte française ? Alors dans la liste, il y avait deux boîtes françaises. Qui était celle justement par qui on avait un peu initié le truc. Mmh. Alors la petite anecdote, c'est que les boîtes françaises, elles ont répondu, on leur a envoyé le deck, hein, donc en même temps que les boîtes américaines, et on a reçu l'email avec les questions, on avait déjà vendu la boîte.
Les Américains, ils sont forts.
Et puis nous, franchement, enfin, du point de vue entrepreneur, on était beaucoup, beaucoup plus attirés par aller vendre à une boîte côté au Nasdaq, comme TripAdvisor avec 500 millions de VU, leader mondial dans son secteur, etc., qu'aller vendre une boîte française. Hein, il faut reconnaître.
Alors, moi, j'ai une question un peu plus perso, là. Tu passes, à ce moment-là, au moment de la vente, de à risque, pas riche, à riche, sans risque. Comment tu gères ça psychologiquement ? Parce que du coup, tu changes complètement de stratosphère, entre guillemets, tu vois. Comment tu gères ça ? J'ai lu plein de trucs sur la revente, etc., des taux de divorce extrêmement élevés, etc., etc. Comment est-ce que toi, tu reçois cette nouvelle-là ? Donc, il y a à la fois un immense soulagement, une joie, etc. Peut-être une peur du vide ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Moi, il y a trois éléments, j'ai envie de dire. Le premier, j'y crois beaucoup. Alors évidemment, l'argent, c'est toujours mieux d'en avoir et on est content que ce soit sur le compte, même si on n'en fait pas grand-chose. Mais surtout, pour moi, ça a été un marqueur de dire ça y est, c'est fait, quoi. Voilà, cet objectif-là, qui était quand même un objectif, je l'ai dit en introduction, hein, depuis 10 ans, moi, je voulais être entrepreneur. Là, à ce moment-là, j'avais 40 ans. Donc voilà, c'était 30 ans. Que je clôturais par avoir réussi à créer une belle boîte, une marque connue, parce qu'en B2C, ça, c'est un peu le truc qui est sympa.
Bien sûr.
Et la revendre à quand même, et faire une belle vente, et du coup, avoir suffisamment d'argent potentiellement pour être tranquille le reste de ma vie, en étant frugal en tout cas. Ça, c'est le premier point, c'est quand même la grande satisfaction de, voilà, quand on est, quand on est salarié, on a des promotions de temps en temps, des belles promotions, des beaux jobs. Quand on est entrepreneur, c'est ce genre de milestone qui encourage à se dire bah voilà, on a fait du bon boulot. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue quotidien, dans le boulot, en fait, alors TripAdvisor, c'est une boîte assez incroyable, mais ils bossent, hein. Et donc, gentiment, mais ils nous ont dit non, mais nous, par contre, on a de grosses ambitions pour vous, donc il faut y aller. Et nous, on était super tellement contents. Donc, On a presque plus bossé faisant partie de TripAdvisor, mais avec aussi plus de moyens. Trois mois après, on a racheté trois boîtes. On a intégré très vite avec TripAdvisor avec des enjeux techniques. Donc en fait, on est resté dans le feu de l'action d'un point de vue opérationnel. Donc là, il n'y a pas eu trop de questionnements, entre guillemets, existentiels. Et puis, d'un point de vue perso, j'ai envie de dire que j'ai une épouse extraordinaire qui... La seule chose qu'elle m'a dit quand... évidemment, elle était dans les secrets des dieux, mais quand ça s'est fait, quand c'était signé, elle m'a dit « on ne change rien ». Et c'est globalement vrai. On n'a rien changé à notre vie. On a gardé notre maison, on n'a pas de voiture, on n'en avait pas plus. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un voyage au soleil, ce qu'on n'avait jamais fait avant avec nos quatre filles. Ce qu'on ferait plus aujourd'hui parce qu'on prend plus l'avion. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on a fait et tout le reste est resté globalement normal.
Et donc tu avais encore la motivation de te lever tous les matins pour bosser pour un projet qui n'était plus le tien ?
Ouais, alors ça, globalement, ça n'a strictement rien changé au début. Je dis au début parce qu'après, je m'étais donné 2 ans, moi. Moi, je suis comme ça, j'aime bien me donner des milestones. Okay. Et plus me poser de questions pour justement être à fond dans le truc et pas tous les matins se dire « c'est quoi ma vie ? Qui je suis ?» Et je me dis « je me donne 2 ans pour accompagner, pour voir comment ça se passe, pour apprendre avec des Américains. » Et au bout des 2 ans, voilà, bah du coup, au bout des 2 ans, je me dis « bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai hésité à recréer une boîte, j'ai réfléchi à des trucs. Et puis, assez vite, alors je suis assez un intuitif, moi, et puis on a décidé avec ma femme, en fait, d'aller habiter aux États-Unis. Et du coup, à ce moment-là, j'ai créé une opportunité au sein de TripAdvisor tout en gardant la fourchette. Et donc, je suis resté 5 ans de plus, mais aux États-Unis, où là, c'était vraiment une nouvelle aventure.
T'es allé vivre où ?
Le siège de Trip est à Boston.
Donc, t'es allé à Boston.
Donc, on a été à Boston. Donc voilà, et donc là, il y avait des motivations. Et j'ai créé une business unit pour TripAdvisor. Okay. De là-bas, donc là j'ai recréé en entrepreneuriat, on était 6 quand je suis arrivé, on était 300 quand j'ai fini, on est passé de 2 à 60 millions de chiffre d'affaires en 3 ans, et c'était un business avec une équipe américaine, enfin, voilà, donc c'était pour le coup nouveau challenge.
Et petite histoire, du coup le fonds Autium, donc qui était avec toi dans cette aventure là, a engendré, on va dire, des super entrepreneurs, dont Doctolib. Et c'est ce qu'on disait en préambule, enfin, en préparant ce podcast. C'est qu'en fait, finalement, ta stratégie hyper hands-on d'aller voir les restaurants un par un, c'est un peu ça qui a fait le succès de Doctolib au début. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil de dire que finalement, la boîte qui a été créée par les gens qui ont été avec toi, dans laquelle tu as investi au début, à utiliser les mêmes ficelles entre guillemets pour réussir. Je trouve que c'est un beau clin d'œil, hein, pour tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, moi je trouve que c'est une vraie leçon de mettez les mains dans le cambouis, les gars. Hein. Enfin, tu vois, un des restaurateurs, il y a pas de mailing, quoi. Il y a du hands-on et on se retrousse les manches, quoi. Et ça, je trouve ça hyper hyper inspirant. En tout cas, c'est des choses que les gens oublient. Ils se disent, ouais, je vais monter une boîte, mais surtout, je vais pas faire le sale boulot. Mais il y a que ça.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur Doctolib, parce que moi, je dis à tout le monde, Doctolib, c'est un succès phénoménal, et pour le coup, c'est la fourchette en 10 fois mieux. Et je le dis en toute humilité, mais en vraie humilité, hein, ils sont exceptionnels et ils font beaucoup mieux les choses qu'on les a faites. Mais ça reste ultra laborieux. Doctolib, c'est 100 balles par mois par médecin, globalement, enfin, c'est un peu plus maintenant. Il faut aller les chercher un par un, pareil, il n'y a pas vraiment de chaîne de médecins, enfin, moi, il y a des hôpitaux, mais. Et Doctolib, c'est des milliers maintenant de commerciaux, enfin en tout cas pas loin de 1000, je pense, j'ai pas les chiffres en tête, qui doivent signer leurs 10 ou 12 docteurs par mois. Alors maintenant, évidemment, il y a un peu plus d'entrants, en tout cas en France, mais en Allemagne, en Italie qui viennent d'ouvrir, ça reste de la pure chasse. Et il faut aller les convaincre un par un et refaire le boulot tous les matins. Et donc, ouais, c'est pas. Ça scale, mais avec de l'huile de coude.
Et ça, les gens ne le voient pas forcément de l'extérieur. T'as l'impression que Doctolib, c'est facile. On a donné ça aux médecins, ils se sont inscrits tout seuls. Parle-nous un peu de tes nouveaux projets pour clôturer un peu l'histoire de ta vie. Donc, tu l'as dit en filigrane, tu ne prends plus l'avion. Tu es très impliqué dans la question écologique. Où est-ce que t'en es aujourd'hui donc dans tes projets? Quand est-ce que t'as quitté la fourchette
J'ai quitté les opérations de la fourchette en mars de l'année dernière, donc il y a 9 mois maintenant, avec pour objectif de créer des projets, enfin de contribuer à des projets, on va dire, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, à très fort impact social et environnemental, et ou idéalement les deux. Moi je pense que le monde est dans une grosse galère et je suis pas le seul, et Mais je suis plein d'espérance et surtout, voilà, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat, je crois beaucoup à la capacité de l'homme à trouver des solutions. Et donc, sur la partie environnementale, évidemment, c'est comment est-ce qu'on réinvente un monde à 2 tonnes d'émissions par an et par habitant. Aujourd'hui, on est à 10 en France, 18 aux États-Unis, 3 dans le reste du monde. Donc c'est passionnant et en fait c'est partie de ces problématiques, ça c'est très américain, un truc que j'ai pris aux États-Unis, c'est qu'il faut essayer de se projeter vraiment sur le long terme pour être capable de designer les solutions aujourd'hui mais qui sont pour demain. Et quand on réfléchit à ce mode de vie d'automne, c'est comme ça que les Américains l'appellent, le mode de vie d'automne, on est obligé de réfléchir à toute sa manière de consommer, évidemment tout ce qui est transport, tout ce qui est logement, tout ce qui est consommation, tout ce qui est alimentaire, etc. Et ça ouvre des champs d'opportunités monstrueux. Donc évidemment, je ne pourrais pas tous les explorer. Et moi, je regarde particulièrement dans l'agroalimentaire qui a toujours été une petite passion pour moi et même de famille parce que j'avais un grand-père dans l'agroalimentaire déjà. Et que l'agroalimentaire, c'est d'un point de vue santé, environnemental et social, c'est des gros enjeux. Enfin, je le dis hein, parce que tout le monde ne le sait pas, mais un agriculteur, un maraîcher, c'est-à-dire quelqu'un qui cultive des fruits et des légumes, au bout de 5 ans où il a travaillé 70 heures par semaine, il va gagner, s'il est super bon, 1500 euros par mois. Donc, quand on vient du monde d'Internet... Et des salaires qu'on y voit. Et pourtant, c'est plus important de cultiver des fruits et des légumes que d'optimiser l'algorithme de Google, d'après moi. En tout cas, celui d'Amazon. Donc, je pense qu'il y a des énormes enjeux. Et puis, j'aimerais bien, évidemment, appliquer tout ce que j'ai appris à la fois en tant qu'entrepreneur, dans le digital, dans tout ce qui est plateforme, à ces univers-là de l'agroalimentaire.
Génial. Peut-être petite question pour finir. J'aime bien finir un peu sur des petites questions un peu plus deep. Donc, on a compris, hein, ta motivation aujourd'hui, c'est réussir à un peu plus changer le monde.
Mais pour de vrai.
Ouais. Et du coup, tu t'es fixé des milestones, des objectifs à 2 ans, des objectifs globaux. Enfin, quoi, qu'est-ce qui ferait que tu réussis là-dedans? Est-ce que tu t'es fixé un objectif
Ouais, alors juste, l'une de mes réflexions, parce qu'on est un peu plus deep, c'est justement, c'est aussi d'aller un peu moins sur la taille et la vitesse. Parce que la taille et la vitesse, c'est un peu ce qui nous a emmené là où on est aujourd'hui. Et de réfléchir justement à des systèmes qui vont de manière organique, se constituer, donc d'être plus une plateforme que d'être une grosse entreprise ou quoi que ce soit. D'un point de vue milestone, enfin moi j'ai deux grands KPI pour revenir au business qui sont donc les tonnes de CO2 économisées. Ça se mesure plutôt bien aujourd'hui. Et la deuxième qui est un peu plus compliquée, c'est la dignité humaine. C'est comment est-ce qu'on et par le travail, moi j'y crois beaucoup, c'est comment est-ce qu'on crée des jobs qui font vraiment du sens et qui permettent à des personnes de se réaliser en tant qu'humain, et c'est pas toujours le cas aujourd'hui dans le monde.
Très bien, c'est très très beau. Le pire conseil qu'on t'ait donné en entrepreneuriat, enfin ou dans tes différentes expériences?
Non, moi, je suis un optimiste, alors je retiens plutôt les bons conseils que les mauvais, mais je pense qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que ce que je dis toujours, c'est que souvent, quand je donne mes idées, alors je commence par ma femme, qui est souvent assez dure, mais c'est pas grave, il y a toujours du bon à prendre. En fait, il faut... Généralement, les gens vont dire « Non, mais ça marchera pas, ou je comprends pas, mais t'es sûr, etc. » Et ça, il faut pas l'écouter, parce que forcément, c'est quand on a son idée, nous on a tout le contexte, on a plein de choses qu'on va pas forcément exprimer dans le pitch. Donc, faut être capable d'écouter les bons, les trucs pertinents dans les feedbacks et de laisser la big picture de quand quelqu'un dit ça marchera pas. Enfin, la fourchette, il y a plein de gens qui nous disent ça marcherait pas. Puis après, 6 ans après, tout le monde va dire bah, si j'avais eu l'idée, c'est tellement simple. Puis en même temps, on sait que l'idée, c'est 3% du succès d'un projet. C'est plus de. Il y a toujours du bon dans les feedbacks parce que c'est toujours une personne qui est potentiellement un utilisateur, un consommateur, ou en tout cas, qui va donner sa réaction par rapport au sujet. Mais il faut juste écouter, il faut comprendre les feedbacks. Quoi.
Et donc, tu termines avec le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense, et c'est un conseil que j'ai justement à HEC, puis c'était un des trucs que j'ai appris à HEC, c'est toujours commencer par le client. Et, le client, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut aller le voir, aller l'écouter, l'observer. Et j'avais donné ça comme exemple une fois à la fourchette aux équipes, mais une fois chez ça, on avait fait un cas sur le riz, sur le marché du riz, et puis pendant une demi-journée, on avait brainstormé dans une salle, et puis on n'avait rien trouvé. Puis à un moment donné, je ne sais plus qui avait dit, mais si on allait au champ du coin pour regarder le rayon de riz. Et on avait été regarder le rayon pendant une demi-heure, on avait regardé les consommateurs, prendre un paquet, regarder en haut, regarder en bas, et on avait fait un super cas.
Ok, hyper intéressant. Merci Bertrand pour tes lumières et ton histoire. J'espère que ça vous a inspiré. Merci à tous les auditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter. Et à la prochaine. Merci Bertrand.
Merci David.
Au revoir.
À bientôt.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire, ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.